principe actif. Une rediff, quoi.
Oui, bonjour François Chéniaud. Nous avons le plaisir de vous recevoir sur cette antenne parce que prochainement vous allez nous faire le plaisir de jouer à Évreux au Cube les 4 et 5 mars prochains avec votre spectacle Mirliton. Et c'est vrai que votre travail, vous venez d'intégrer la direction du Centre chorégraphique national de Caen. Et vous terminez aussi, vous étiez à l'honneur au festival d'automne de Paris. Donc on avait un petit peu envie de partager avec nos auditeurs eh bien, votre travail et votre démarche.
Merci de votre invitation.
Alors, Monsieur Chéniaud, François Chéniaud, vous avez vous mettez en scène Mirliton. Vous pouvez nous parler un peu de ce spectacle ?
Alors Mirliton, je ne mets pas vraiment en scène Mirliton parce que Mirliton c'est une rencontre entre deux artistes, donc Emeric Eno qui est un artiste qui fait du beatbox, donc est une manière de faire des percussions mais uniquement avec la bouche et un micro. Et donc c'est une rencontre entre Emeric et moi et c'est vraiment une rencontre entre deux artistes de pratique. Donc c'est pour ça que je vous ai repris dans le sens c'est pas vraiment une mise en scène ou, parce que tout est parti de la rencontre de nos arts et de nos expressions beaucoup plus qu'un spectacle qui pourrait partir d'une idée effectivement de mise en scène.
Oui, mais est-ce qu'on peut parler de battle ou est-ce que souvent le dispositif scénique quand même est très particulier puisque vous évoluez vraiment sur un tout petit espace de praticable avec les spectateurs assis en cercle tout autour dans une extrême proximité et on a l'impression de au départ d'une battle, d'un concours de virtuosité, on peut dire ça comme ça.
Donc effectivement, c'est une rencontre entre Emeric qui fait du beatbox et puis moi je suis danseur, mais pour cette pièce, je danse avec des chaussures qui percutent aussi, qui sont des chaussures de danse irlandaise, mais que j'utilise à ma manière, on va dire. Et donc, je dirais que c'est une rencontre avec toutes les dimensions possibles d'une rencontre, y compris celle plus agonistique ou du battle, comme vous dites. Mais c'est pas la seule dimension. Je dirais que c'est aussi, il y a aussi l'écoute, il y a aussi la complémentarité, il y a aussi la fusion, il y a aussi l'amitié, il y a aussi le soutien, il y a aussi. Donc, il n'y a pas uniquement de la rivalité, même si elle peut exister. Et effectivement, on évolue. Enfin, notre scène, notre terrain principal, c'est un petit praticable de 2 mètres par 2 mètres. Et le public est au plus près, tout autour. Effectivement, ça rappelle l'organisation spatiale d'un battle où on danse au centre d'un cercle. Mais c'est aussi une manière, comme c'est une expérience sonore, en fait, où à la fin de l'expérience et du spectacle, on est un peu avec cette sensation étourdissante et réconfortante que tout peut faire du son, tout peut être de la musique. Le fait que le public soit disposé en cercle comme ça, c'est aussi une manière d'être dans une expérience plus partagée et plus égalitaire, en fait, qui est à l'inverse du quand on est dans un théâtre, y a les gens qui sont proches, les gens qui sont loin. Là, en fait, il y a une plus grande égalité d'expérience, c'est plus commun, en fait.
Il y a une notion de rencontre culturelle quand même, chacun vient avec ses techniques et j'ai envie de dire un truc un peu plus large d'ailleurs que ses techniques, son mix de ce qu'il est, chacun est différent. Moi j'entends quand même une rencontre culturelle au sens le plus large.
Oui, évidemment on est deux artistes mais on charrie aussi des mondes et donc il y a quelque chose qui est... Oui, absolument. Et puis aussi, le beatbox, on l'associe souvent aux cultures dites urbaines, à quelque chose de très hip-hop ou de très industriel. Et c'est vrai que la présence de mes chaussures qui évoquent quelque chose de plus traditionnel, on pourrait dire, et aussi parce qu'on a donc le micro d'Emeric et mes chaussures, mais il y a aussi des bâtons, des cloches. C'est une manière, de se faire se rencontrer, s'associer des mondes et des références qu'on pourrait penser éloignées, mais qui en fait convergent en fait dans une même aspiration à l'intensité.
Oui, moi j'avais plus envie de parler presque de voyage et de fusion à un moment. Oui. C'est un peu comme si vous transformiez la matière de vos deux disciplines pour fusionner dans quelque chose d'assez inédit et de très émotionnellement chargé. Est-ce qu'on peut dire ça aussi ?
Oui, j'aime beaucoup cette image d'une fusion inédite et en même temps comme évidente entre deux pratiques, deux médiums, deux disciplines qui s'emboîtent en fait parfaitement. C'est pour ça qu'il y a un peu de rivalité et de battle, mais il y a surtout la joie en fait que les rythmes et les manières de les accomplir s'emboîtent parfaitement dans le meilleur des cas, et pour produire du coup une expérience sonore et visuelle à la fois évidente et un peu inédite, c'est vrai.
Mais ça tient aussi aux interprètes, puisque...
Oui, ça tient à la manière dont on s'y livre corps et âme, ouais.
Ça, on a l'habitude, nous, à la radio, de trouver qu'il y a un lien évident entre les peuples, entre les humains, qui est celui de la musique. Bon, il y a la nourriture aussi, ce d'ailleurs à quoi vous étiez attelé il y a quelques secondes avant le coup de fil, mais il y a aussi cette notion de, finalement, la musicalité, la rythmique, la musique, finalement, est une langue à part entière et finalement est une langue de lien. Moi, c'est ce que j'entends dans ce que vous dites aussi, qu'il y a ce lien, finalement, est quasi naturel. Par la rythmique, par la musique.
Alors, je suis d'accord avec vous, mais je suis pas d'accord dans l'idée que ce serait un langage universel et naturel, parce que cette pièce, justement, on s'est proposé de la vivre, cette rencontre, de la vivre uniquement à travers des rythmes à sept temps, et qui, nous, dans les cultures dans lesquelles on a grandi, dans les cultures occidentales, les rythmes à sept temps sont très difficiles, très peu naturels, et nous semblent boiteux, difficiles à accomplir, contre-intuitifs, etc. Alors que dans d'autres contextes culturels, il y a une très grande aisance et facilité et fluidité sur des rythmes à sept temps, ou encore des mesures avec des encore plus impairs ou plus inhabituels. Et pour cette pièce, ça nous a coûté beaucoup de difficultés, d'efforts de se mettre sous ce moule-là de cette rythmicité. Ça nous a intéressé parce que ça nous permettait d'être tous les deux également débutants, on va dire. Du coup, on arrive avec nos mondes, mais avec cette contrainte qu'on se donne de ne se parler qu'en rythme à sept temps, ça nous privait de tout ce qu'on avait déjà dans nos poches, d'une certaine manière. Mais aussi, ça nous a permis de rencontrer, par exemple, des artistes de Konakol, un art rythmique indien, qui nous a beaucoup aidé à comprendre, en fait, comment on peut aborder cette rythmique-là. Et cette rencontre-là, par exemple, à travers le Konakol, pour moi, elle est très fascinante, et elle nous rappelle que le rythme peut être un élément du lien, mais qu'en tout cas, les pratiques rythmiques, elles ont une histoire, elles ont une histoire sociale, elles ont une histoire culturelle, et que c'est très important pour moi de la valoriser et de pas l'effacer derrière une prétendue universalité du langage musical qui, en fait, viendrait effacer toutes ces richesses en fait locales et culturelles, et ça viendrait effacer, et pour preuve, c'est la difficulté qu'on a eu, nous, à essayer de jouer à sept temps, alors que toute notre culture nous a imprégné que le rythme c'est à trois temps ou à quatre temps, en gros.
Et question d'une parfaite néophyte, est-ce que le public le remarque, que c'est un travail sur sept temps, ou est-ce que ça semble naturel tellement vous l'avez intégré à votre...
Je pense que le public qui n'est pas obsédé par le rythme et par les chiffres ne s'en rend pas compte, parce que il y a certains moments qui sont très répétitifs et comme une transe, et en fait... on perçoit plus la régularité, on va dire, de la cyclicité du rythme qui revient, plus que son découpage en sept temps. En revanche, quand il y a des musiciens dans la salle, ils s'en rendent compte tout de suite. Ils s'en rendent compte tout de suite parce qu'on voit bien que les appuis sont irréguliers. Et puis je pense que le public s'en rend pas compte. En revanche, si on avait fait la pièce en huit temps, en fait, la pièce aurait été tellement différente, parce qu'elle aurait eu un groove qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on peut entendre dans les discothèques, par exemple, ou dans les clubs. Alors que là, il y a quelque chose d'intense, de répétitif, d'une transe, mais en fait, qui ressemble pas à ce qu'on connaît de la culture techno, par exemple.
Mmh. Oui, c'est un exercice sur le rythme, c'est une danse, un projet où le rythme a été quand même, au-delà de la rencontre aussi, d'un point de vue technique, l'importance, la clé un peu de voûte de la construction chorégraphique.
Oui. Ouais. Oui, absolument. C'est vraiment le point d'entrée pour nous deux, et c'est un point d'entrée égalitaire, parce que c'était très clair pour nous que si on travaillait ensemble, il n'était pas question que Aymeric soit le musicien et moi le danseur. On voulait tous les deux être dans la production de gestes et de sons. Et là, ce qui fait lien, comme vous disiez tout à l'heure, c'est effectivement le rythme. C'est ce qui relie le son et le mouvement. Et donc, ça nous permet tous les deux, en fait, d'être complètement attrapés par cette pratique. Chacun avec notre médium de départ.
Et de vous déplacer aussi, de changer un petit peu les paradigmes de sa main, qui est l'objet aussi de la rencontre et de la création. Donc, c'est très intéressant,
oui.
En effet.
Oui, absolument. Ouais. C'est un terrain de... Et puis chaque date, pour nous, c'est un terrain de jeu et de travail, parce que le principe est rythmique, donc il suppose de l'écoute, et il y a des séquences... les rythmes en eux-mêmes, ils sont très sédimentés et travaillés maintenant, mais leur enchaînement et leur exécution, en fait, elle dépend du moment... Et on est tout le temps libre de rajouter un ornement, de rajouter un dédoublement, d'utiliser en fait cette pratique comme un exercice pour se confronter en fait à cette matière rythmique.
Bien. Très bien. Ah, excusez-moi, je reprends ma fiche. En tout cas, on vous retrouvera le 4 et 5 mars. Le 4 et 5 mars à Évreux, au Cube, exactement, à 20h. Cette belle rencontre avec Aymeric Hainaut et vous, François Chéniaud, sur le plateau avec Mirliton. Voilà comment ça va se passer. Merci beaucoup à vous, François, d'être passé par le micro.
Merci à vous. Et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Je suis heureux.
Le bonheur, après tout, je ne pourrais pas m'en passer. Les puissants, par exemple, sont souvent des ratés du bonheur. De là vient qu'ils ne soient pas tendres. On a tendance à se cacher pour l'exercer. Étonnez-vous après cela que le monde ait mauvaise mine. Qu'il soit difficile d'y afficher le bonheur. Comment s'en débarrasser? Eh oui.
Le bonheur, animal sauvage. On le flique, on le cherche, on le course, on le pourchasse. On le domestique, on l'idéalise. On se l'approprie et puis on le déguise. Pour l'avoir en laisse, comme un chien de compagnie que l'on caresse, avec les yeux qui pétillent assis aux pieds. Tributaire de nos humeurs, comme une béquille de diamant qui reflète les couleurs, le bonheur. C'est une drogue légale, mais c'est comme les cerises. Si t'en bouffes trop, ben ça fait mal. Ça s'infiltre dans les veines, comme un œil dans une spirale. Et puis ça crame le cœur, car trop de bonheur, elle étale. Le bonheur, c'est pas un jeu de hasard. Ça te tombe pas sur la gueule, comme une victoire au poker. Ça s'attrape comme une grippe, ça s'oublie comme un cauchemar. C'est une bataille qui oppose le soleil au brouillard.
Celui qui traîne sa vie et succombe sous son propre poids, le peut-être de personne. J'ai plutôt l'impression qu'il faut être fort et heureux pour bien aider les gens dans le malheur. Je suis heureux. Je suis heureux. Heureux. Je suis heureux. Heureux. Je suis heureux. 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 Je suis heureux. Heureux. Je suis heureux. Heureux. Je suis heureux. Heureux. Je suis heureux. 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 Je suis heureux.
Le bonheur, lui, il est toujours à l'heure. Et s'il arrive en retard, c'est qu'on l'attendait ailleurs, à la fausse place, ou bien le mauvais jour. Qu'il était sur une terrasse quand on le cherchait dans la cour. Le bonheur, c'est un train à grande vitesse qui passe dans une gare temporaire que la routine efface. Y'a pas de billet, pas de contrôleur et pas de première classe. Et c'est pas toi qui bouge, c'est le décor qui se déplace. Le bonheur se tisse comme une toile d'araignée, et il se brode sur une devise avec des perles de rosée. Se porte en bracelet, en bague ou en collier, sauf en bouquet, en blague ou en baiser. Le bonheur, c'est l'enfant roi, aussi fragile que le verre. Quand on le repousse d'un doigt, il se fissure, puis il meurt. Il s'éteint sur un trottoir à la lueur des lampadaires, aussi faible que la lumière d'une luciole dans le désert.
Bon. Où en est-elle? Ah oui, le bonheur. Eh bien, pour le bonheur aujourd'hui, c'est comme pour le crime de droit commun. N'avouez jamais. Ne dites pas comme ça, sans penser à mal, ingénument, je suis heureux. Car aussitôt, vous verriez autour de vous, sur des lèvres retroussées, votre condamnation. Ah, vous êtes heureux, mon garçon. Ah, vous êtes heureux, mon garçon. Ah, vous êtes heureux, mon garçon.
Le bonheur rend jaloux, rend malade et rend fou. On se l'arrache comme une médaille qu'on attache autour de son cou. On s'en prive sans réfléchir pour l'économiser. Puis on le planque pour surtout ne jamais se le faire piquer. On le vend au marché noir au prix du kilo d'or. Et personne ne réalise quand y en a plus, et ben y en a encore. Quand y en a plus, et ben y en a encore. Quand y en a plus, et ben y en a encore.
Je garde du respect pour le bonheur et les gens heureux qui ne sont pas heureux, eux, comme vous dites. Je suis heureux, heureux, je suis heureux, heureux.
Fanny de Poule avec le titre « Je suis heureux » et nous étions trop heureux d'écouter, trop heureux d'ailleurs. Trop heureux. Bon, je vais la refaire. Trop heureux, on était trop heureux.
Trop heureux.
N'importe quoi moi. Fanny de Poule avec le titre « Je suis heureux ». C'était un vrai plaisir de partager cet artiste avec vous, parce que nous, on l'aime bien en
ouais,
plus.
Ça donne la pêche.
Ce qui nous emmène à notre agenda non exhaustif de ce mois de février. Et qu'avons-nous repéré dans cet agenda?
Alors moi, comme d'habitude, j'ai repéré des expos parce que j'aime ça. Je vous conseille jusqu'au 13 février sur le site de l'Université d'Évreux, sur le site de Tilly, l'expo sur le talus de Pamela Witkock. Elle a fait ça avec des étudiants et c'est à se laisser découvrir, c'est magnifique comme d'habitude.
Qu'est-ce que j'ai mis? T'as une autre expo, nous?
Absolument.
T'avais un autre expo.
Alors là, j'ai une autre expo, cette fois-ci à l'hôtel d'agglomération d'Évreux. Il y a une expo réalisée par des enfants avec, dans le cadre de la cité éducative, qui s'appelle l'exposition Kamishibai, qui est une série de réalisations de petites histoires et d'illustrations co-construites, donc, et ça, c'est à voir jusqu'au 12 février.
Alors, pour être dans la mouvance art plastique, art graphique, et pour faire le clin d'œil aussi avec la Maison des Arts, actuellement, nous avons jusqu'au 28 février l'exposition « D'une rive à l'autre », avec les dessins, peintures, écritures de Philippe Judelin et les dessins, sculptures de Annie Lacour.
Voilà. Moi, j'ai envie de parler spectacle aussi, hein, puisque c'est un peu le lieu où on peut le faire.
Tout
et j'en avais vraiment deux à vous conseiller pour les semaines à venir. Un spectacle qui s'appelle 4,7% de liberté par la compagnie La Cordonnerie. Ça aura lieu au Cadran le mardi 10 et le mercredi 11 février. Mardi 10 à 20h et le mercredi 11 à 10h. On fait des séance spécialement ouverte à l'ensemble du public à 10h le mercredi. Et c'est une compagnie qui mélange à la fois théâtre et technique cinématographique sur le plateau. Donc c'est toujours extrêmement ludique. 4,7% de liberté, c'est l'histoire d'une ado adoptée par un couple de scientifiques. Et c'est un petit peu la question de est-ce qu'il est naturel d'aimer ses parents et est-ce que quand on est parent, c'est facile d'aimer ses enfants? Toute une thématique.
Moi, j'avais envie de vous parler aussi d'un concert qui aura lieu le 14 février à la Brasserie Sport, mais avec les élèves du conservatoire CRD. C'est le concert des Balkans de luxe. Dans toute la mouvance, là, il y a un cycle autour des musiques de l'Est. Et puis, on a quand même le groupe et l'orchestre des Balkans du CRD qui en voit bien.
Tout à fait, ça c'est certain.
Ouais. Et pour finir, peut-être le spectacle Discothéquie de Nicole Genovese, qu'on a déjà accueilli plusieurs fois. Ça, ce sera le 3 mars au Cadran. Et c'est l'histoire du disco en Finlande dans les années 70.
Voilà.
Avec les percussions de Strasbourg sur le plateau.
Ouais. Ah oui, quand même. Et ça, c'est voilà, Nathalie qui nous glisse de manière subtile, mais on peut le dire. C'est bien, c'est bien. On t'entendait, Nathalie, on t'entendait. Toutes les salles de diffusion de concerts ont également la programmation dès le mois de février, parce que vous savez, il y a toujours un petit moment de creux au mois de janvier dans plusieurs salles. Et là, je pense au Silo qui propose aussi sa programmation. Je pense à la Gare aux Musiques qui a des choses au plateau. Je pense au Cube, bien entendu. Je pense au 106 sans oublier d'autres lieux qui en proposent.
Tu penses beaucoup.
Oui, tu penses beaucoup.
Ah ouais, donc j'y suis. Allez, on passe à la suite, à notre dernière tradition. C'est celle du film et c'est Nathalie encore qui s'y est collée.
Eh bien, je vous propose d'écouter la bande-annonce du film d'animation Olivia et le tremblement de terre invisible, qui est donc un film d'animation qui est espagnol, de Barcelone, et qui raconte l'histoire de Olivia, une préado, on va dire, dont la vie va être chamboulée. Un tremblement invisible lorsque justement sa maman la situation familiale change du tout au tout, où la maman perd son emploi, est obligée de déménager et se retrouve dans un nouveau quartier, une nouvelle ville, et là tout recommence avec des petits moyens. Mais ce changement de vie qui peut être très bouleversant va prendre des chemins d'aventure pour Olivia, son petit frère, grâce aux personnes qui habitent, les habitants autour d'eux. Et c'est un film d'animation que je vous recommande.
Eh bien, on se quitte avec cette bande-annonce d'Olivia. Nous, on vous donne rendez-vous le prochain premier vendredi du mois. Voilà.
Le 6, c'est le 6 mars, vendredi 6 mars.
Très bien. Eh bien, on vous quitte avec Olivia. À bientôt.
À bientôt.
Salut, je m'appelle Olivia. J'habite à Barcelone avec ma maman et mon petit frère Tim. Bien jusqu'à ce que tout bascule.
Hein? Qu'est-ce qui se passe?
Ils vont nous expulser de la maison.
Et moi, je suis tombée de très haut.
Si la situation ne change pas rapidement, je vais être obligée de placer les enfants dans un foyer d'accueil.
Ils vont pas nous séparer, je te le promets.
Olivia, j'aime pas cet appartement.
En plus, on n'a pas d'électricité.
Et tu connais pas le système D?
Mais même quand tout s'écroule, on peut toujours se relever. Grâce à l'amitié,
le plus important pour moi, c'est qu'on soit ensemble tous les deux.
Je vais trouver une solution.
La solidarité et grâce à la force de notre imagination.
Ouais, on s'est fait plein de copains et on est super heureux.
Et si la vraie magie, c'était de continuer à rêver malgré tout?
Je n'ai jamais rien entendu d'aussi ébouriffant.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Et partout ailleurs sur principactif.net. Principe Actif, le mix des cultures.
Oh, there's a love.
There's a love in my heart for you.
Keeps on burning.
Keeps on burning.